On approchait 3 heures. Le vent soufflait contre le pare-brise. Le thermomètre affichait une température de moins 2 degrés Celsius. Léane ne faisait plus aucun bruit dans le coffre. Elle devait être en train de réaliser ce qui lui arrivait. Des connexions se mettaient en place dans sa tête. Ses doutes se transformaient en certitudes. Elle avait partagé les derniers jours de sa vie avec un monstre. Un homme à deux visages. Une sorte de xyphopage, infect et diabolique. Elle avait été manipulée, violée par celui qui avait séquestré sa fille pendant toutes ces années. Il s'engagea dans les petites rues désertes, en direction du nord, et trouva rapidement la route qu'il avait repérée avant son départ, celle qui partait à l'assaut des falaises vers les jardins d'Étretat. Tout là-haut, un vaste parking se dévoila. Il éteignit ses phares, franchit une bordure, s'engagea sur un chemin de terre destiné aux randonneurs, roula sur 300 mètres jusqu'à s'assurer qu'il était complètement invisible et ne pourrait pas être surpris. Avec précaution, il quitta le chemin et roula sur l'herbe. Très prudemment, car le terrain était en pente. Il positionna l'avant de sa voiture face à la mer et appuya à fond sur le bouton du frein à main à gauche du tableau de bord. Il n'était qu'à quelques mètres du vide, dans une pente. Une mauvaise manipulation, et c'était la chute. Il resta sur place, dans l'obscurité, inspirant un grand coup. C'était presque terminé. Il posa la plaquette de Xanax et le téléphone de Léane sur le siège passager. Récupéra son pistolet, enfila gants et bonnet. N'avait-il rien oublié? En journée, cet endroit devait être fréquenté par les randonneurs, même l'hiver. Il était fort probable qu'on retrouve la voiture en bas des falaises d'ici une dizaine d'heures. David attendrait d'être rentré pour donner l'alerte. Il raconterait s'être réveillé, seul, la gueule en vrac, parce qu'il avait bu, avoir constaté l'absence du 4x4 et était incapable de joindre sa femme. Léane était-elle partie pendant qu'il cuvait? À quelle heure? Où? Il ne saurait pas. Lui était parti se coucher aux alentours de 23 heures avec 4 ou 5 whisky dans le ventre. Elle était restée en bas. Ensuite, le trou noir. Il sortit, fut surpris par une bourrasque qui le décala d'un mètre en direction du vide. Il eut l'impression qu'un ogre, surgi des flots, aspirait tout sur son passage. Quelque part, dans l'obscurité infinie de la Manche. Le vent glacé sifflait le long de ses joues. Les étoiles scintillaient, regroupées en une traînée laiteuse, et le quart de lune soulignait au loin l'impressionnante aiguille dont Léane parlait dans son livre. C'était beau. Il s'agenouilla et s'approcha de l'arête, les mains enfoncées dans la terre. Il apercevait l'écume blanche des vagues venues se fracasser sur les rochers, une centaine de mètres plus bas. L'endroit parfait pour se donner la mort. Un lieu de fin de thriller. La voiture ne serait plus qu'un amas de tôles battues par les flots. Avec l'eau, le sel, le ressac, aucune trace biologique ou empreinte ne serait exploitable. Parfait. Il s'éloigna vite de là, revint vers la voiture. Avec prudence, l'arme braquée, il ouvrit le coffre. Léane était recroquevillée, toute tremblante, les yeux rouges de larmes. Le visage de son agresseur dansait comme une lune noire dans son champ de vision.
« Qui es-tu ?»
Il l'empoigna et la contraignit à sortir. La garda sous l'emprise de son arme lorsqu'il vérifia scrupuleusement l'état du coffre. N'avait-elle rien laissé traîner? Rien gravé dans la tôle? Ses traits n'exprimaient plus que la colère et la détermination. C'était à la fois Juliane, mais ce n'était pas lui. Deux êtres différents dans un seul corps. Léane sentit les odeurs d'embrun, reconnut le décor qui lui était si familier. Ainsi, c'était vers cet endroit qu'ils avaient roulé depuis elle ne savait combien d'heures. Les falaises d'Étretat. David lui serra le bras et la tira à lui. Leurs deux visages se firent face dans l'air glacé. « Pour ta fille, il faut quand même que tu saches. Je l'ai aimée. Je l'ai vraiment aimée. » Léane tenta de se débattre. Elle aurait voulu le tuer, le frapper de ses poings jusqu'à ce qu'il meure. Mais elle sentait ses forces amenuiser. Son esprit était embrouillé, ses lèvres comme anesthésiées. Au départ, je voulais détruire le bonheur parfait de mon frère, lui prendre ce qu'il avait de plus cher. Livrer sa fille à des bêtes sauvages qui payeraient une fortune pour en faire ce qu'il voulait, jusqu'au bout. Le no limit. Il la plaqua violemment contre la tôle et écrasa le canon de son Sig Sauer sous son menton. Mais je n'ai pas pu. Elle provoquait quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Question de gêne, peut-être. Alors je l'ai gardée avec moi, chez moi, dans une pièce spéciale. Je ne lui ai pas fait de mal. Ce sont les circonstances qui ont fait que j'ai dû m'en débarrasser. La livrer à celui qui saurait s'occuper d'elle. Léane pleure, gémissait. Mais les bourrasques la bâillonnaient. L'homme face à lui continuait à parler, comme si de rien n'était, comme si tout était normal, logique. Après l'arrestation de Janson, diverses petites choses ont commencé à partir en vrille. Avec les flics sur les dents, le business devenait trop risqué, alors j'ai emmené Sarah dans la location de la chapelle en Vercors pour que Delpierre fasse le boulot. Elle ne croit pas que ça a été simple de la quitter. Mais il était grand temps pour moi de changer d'identité, de te rejoindre à la villa. Il frotta son nez qui goûtait. Ses mots semblaient couler de ses lèvres comme des diamants, des perles de givre. C'est là que j'ai déroulé mon plan. Le crime parfait. Pour que ça fonctionne, pour que tu disparaisses, il faut toujours un cadavre pour prendre ta place et il faut réussir à tromper la science. C'est la clé. L'enlèvement de Juliane, mon agression, l'amnésie. Je savais comment simuler. J'ai toujours fait ça pour survivre et me fondre dans la masse. Tout aurait dû être parfait. S'il n'y avait pas eu Giordano, et surtout ce putain de bonnet. C'est comme dans tes livres, c'est le petit truc anodin qui fait tout partir en vrille. Léane n'en pouvait plus, sa tête lui tournait. Elle voulait que tout s'arrête, là, maintenant. Mourir, le plus rapidement possible, pour arrêter, stopper toute cette douleur. La délivrance n'était qu'à quelques mètres au bas de la pente. Qu'est-ce que le bonnet de Sarah foutait dans le coffre du 4x4? Il est évident que Juliane le planquait sur lui quand je l'ai kidnappé, mais je ne l'avais jamais vu de ma vie, ce bonnet. C'est Giordano qui m'a donné la réponse. C'était la victime qu'il s'était offerte en nos limites qui portait ce bonnet, lorsque Janson la lui a livré au chalet de la chapelle. Le bonnet avait dû traîner depuis des mois dans le camping-car où Janson retenait les filles, je ne sais pas exactement. Mais Giordano l'a embarqué comme souvenir, après avoir trucidé la pauvre gamine. Ce taré aimait bien que sa propre fille le porte, histoire de se rappeler, de revivre ses fantasmes. Tu vois le genre ? C'est aussi à cause de ce bonnet que Juliane a enlevé Giordano. Mais ne t'inquiète pas, Je l'ai bien fait souffrir, Giordano. On ne s'est jamais croisés tous les deux, même s'il était un client. Une des règles d'or du business, c'était que personne ne croise personne. Alors quand il a su qui j'étais, t'aurais dû être là pour voir sa tête. Léane titubait. Elle voulut s'élancer droit devant lorsqu'il la décolla de la tôle, mais il l'attrapa par les cheveux et la tira vers l'arrière, chutant dans la pente sans la lâcher. Elle poussa un hurlement. Il se redressa, lui asséna un coup de crosse sur le crâne. Elle s'effondra. Il l'installa à l'intérieur de l'habitacle, côté conducteur. Lui boucla sa ceinture de sécurité. La tête de Léane vacillait. Autour d'elle, le flou. Et seulement un lourd bourdonnement dans ses oreilles. Tu tues tes héroïnes, Léane. T'es consciente du traumatisme que tu provoques chez tes lecteurs? Dans les livres, les histoires devraient toujours bien se terminer. C'est pour ça que les gens payent. Mais dans la vraie vie, c'est différent. Il n'y a pas de retournement de situation de dernière minute. C'est toujours celui qui tient le flingue qui gagne. Il mit le contact, enclencha les phares, approcha son index du bouton du frein à main, la mort au bout du doigt. Parmi les morts possibles, crois-moi, celle-ci est l'une des plus douces. C'est bref et sans souffrance. Il n'y a qu'un truc que j'ignore, c'est si ceux qui se jettent dans le vide en voiture mettent leur ceinture de sécurité. Je suppose que oui, une sorte d'instinct de survie. De toute façon, le résultat est le même. Il appuya et se recula instantanément, claquant la portière dans un même geste. La gravité provoqua la lente rotation des roues que l'herbe et la terre meuble tentèrent d'empêcher dans un premier temps. Mais les dures lois de la physique s'appliquèrent au véhicule sur un plan incliné. Sa vitesse augmenta progressivement. 9 secondes plus tard, il atteignait l'arête et basculait dans le vide. Il en fallut 7 de plus pour que le fracas de la tôle contre les rochers se mêle au rugissement des vagues. La dernière image que Léane vit fut celle de milliers de morceaux de verre se précipitant sur son visage. David Jorlin regagna le chemin de randonnée. Comme dans tout tour de magie, il était temps de passer au dernier acte, la disparition. À gauche, Étretat, à droite, à 2 heures de marche, Fécamp. Il tourna à droite. Au bout, rayonnait au ciel auroral d'anonymes braséros rouges à cajou.
Merci et à bientôt chez Audible.